Much for coming from this first section on drip irrigation, the winning formula to save water. So my name is Jean-Philippe Venon. I will be the facilitator of this session, and for that I will be helped by two persons chairing the session, which I will leave themselves present themselves and introduce the session.
Okay, thank you, Jean-Philippe. So my name is Alain Villecel. I'm from AFEID, French Association for Irrigation and Drainage. I am this vice president.
Good afternoon. My name is Jochen Fröbrich. I work in Wageningen in the Netherlands, and I'm leading the Green Economic Growth Program over there, and hope for a good debate also in this workshop.
So, as Philippe, I'm glad to meet you this afternoon. Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi. We will have a workshop in two sessions, one this afternoon, and don't forget another one tomorrow morning at 9 in the same place. Donc, une première demi-journée cet après-midi, une deuxième demain matin, à partir de 9 heures. J'espère que vous serez tous de nouveau présents parmi nous. The question of our works is, as said Jean-Philippe, le goutte-à-goutte pour économiser l'eau, la formule gagnante. Is the drip irrigation a winning formula to spare irrigation? I hope that we will have the answer tomorrow, but I'm not sure. But I hope that we will dispose of the beginning of an answer. Le thème de nos travaux est effectivement de répondre à la question, à savoir si l'irrigation goutte à goutte est effectivement une formule gagnante dans l'objectif de l'économie d'eau. Nous verrons si nous avons la réponse demain. We will have presentation of articles and of posters, and I will be glad if you don't forget to go to the main hall to look at the posters which are in exhibition there. Donc n'oubliez pas que les posters qui vous seront présentés cet après-midi, puisque vous avons la présentation d'articles mais également des posters, sont exposés dans la pièce principale, donc de la salle d'enregistrement, où vous pourrez aller bien sûr les consulter. I hope that we'll have interesting works, and so I give the chair to Håkon.
Yeah, very good. Not much to add, I believe. The one interesting point is that the program says the discussion should be around more crop per drop. But I believe if we are talking about drip irrigation, we also discuss about investments. So there might be a good opportunity to discuss in the course of this workshop also the shift from more crop per drop to more cash per splash. And I invite you all to take very actively a role in that debate. And for that, we will introduce in the afternoon a new way of participative debate. We will invite four colleagues from the audience to form a quick panel, because normally the audience is at the end of the day questioning themselves what was the whole thing about. So I believe if we make a panel out of you, it keeps you a bit awake to follow the presentations. And what we will do is to ask volunteers, so you don't be afraid. But I assume that if we do not have volunteers at the end of the day, we may pick some. So be prepared. I wish you a very nice day, and thanks a lot.
Thank you. Just a quick une traduction rapide en français. En fait, la dernière partie de la session, pour dynamiser la fin de l'après-midi, on va demander à quatre volontaires dans la salle de venir sur le podium pour former un panel et pour leur demander un petit peu leur retour sur les présentations qui auront été faites. Et dans l'éventualité où il n'y aura pas de volontaires, nos deux chairs nommeront des gens de façon unilatérale pour témoigner. Donc, on vous invite à rester attentifs. On va commencer donc par la première présentation. Oui. Monsieur donc Taki Abdelila, qui va nous présenter quelque chose sur la reconversion des systèmes d'irrigation au Garb, au Maroc. Donc, je vais demander à chaque présentateur sur les papiers de bien vouloir parler pendant 15 minutes pour laisser 5 minutes de questions de clarification après chaque présentation. Et pour les présentations, so 15 minutes for each presenters to leave 5 minutes of questions of clarification behind it. And for the presentation that will be made in French, I will try my best to have a short translation from French to English after the presentation in 1-2 minutes.
Donc, je me présente. Je m'appelle Abdelilah Taqi. Je suis ingénieur de génie rural et je suis chef de service de l'ingénierie à l'Office régional de mise en valeur agricole du Garb. J'ai le grand plaisir de vous présenter cet après-midi une présentation autour de la reconversion des systèmes d'irrigation existants à l'irrigation localisée au niveau du périmètre du Garb. Donc, le plan qui a été retenu pour la présentation, c'est un plan un peu classique. Donc, on va commencer par la présentation du périmètre, puis les systèmes d'irrigation existants. Ensuite, on va enchaîner par la reconversion des systèmes existants à l'irrigation localisée. Et puis, on terminera par un petit volet concernant les conclusions et les recommandations. Le périmètre du Garb est situé au nord-ouest du Maroc. Et donc, la superficie géographique de ce périmètre est de 600 000 hectares, avec 388 000 hectares de surface agricole utile, dont 250 000 hectares ont été déclarés potentiellement aménageables. C'est le périmètre le plus nanti au Maroc du point de vue ressources en eau, avec des apports de Oued Soubou et de ses affluents estimés à 4,8 milliards de mètres cubes, soit 27% du potentiel des eaux de surface mobilisées au Maroc. Et puis nous avons une nappe qui est très riche souterraine, avec 900 millions de mètres cubes, mais qui présente la particularité d'être salée dans la grande majorité. Les aménagements hydro-agricoles, aujourd'hui, nous comptons 114 000 hectares. Les 114 000 hectares, ils ont été aménagés selon des secteurs hydrauliquement indépendants. Et donc, ils étaient aménagés dans le passé, dans une approche entrepreneuriale de l'État, donc selon un système qui était un peu dirigiste. Donc, on s'est retrouvé avec des secteurs de 3 000 hectares et avec des modes d'irrigation de desserte. Soit pour le gravitaire, on avait le tour d'eau, soit pour l'aspersion, on avait la demande. Et on a toujours la demande. À côté de cette grande superficie qui est aménagée en grande hydraulique, donc secteur équipé par l'État et géré par l'État, nous avons l'irrigation privée qui se développe sur 54 000 à 86 000 hectares par an et dont le pompage se fait soit à partir de la nappe, soit au niveau du cours d'eau qui alimente le soubou. Les 114 000 hectares, ils sont répartis de la façon suivante. Donc, ce que vous avez là, ce qu'on voit là, c'est le secteur aspersif. Puis le vert, c'est le secteur gravitaire. Là, le S1, c'est la basse pression. Et puis là, le HURS, c'est la submersion. Comme quoi, pour vous dire que nous avons toute la panoplie des systèmes d'irrigation de surface, ce qui rend la complexité de la gestion très difficile de ces systèmes-là. Donc l'avènement du plan Maroc vert, le plan Maroc vert, c'est lui qui actuellement qui a redynamisé l'agriculture marocaine. Donc sa déclinaison au niveau régional, ce qu'on appelle le plan agricole régional de Garb. Donc nous avons 125 projets. Les 125 projets dont le coût est estimé à 38,6 milliards de dirhams. Donc l'approche partenariale, l'État participerait à 66%. Et le privé participera avec 34% à la réalisation de ce projet, avec un coût d'investissement moyen de l'ordre de 4 milliards de dirhams par an. Ce qui nous intéresse dans tout ça, ce sont ces deux projets-là pour l'irrigation, parce que nous avons les actions transverses du plan Maroc vert. À eux seuls, ils consistent en 20,7 milliards de dirhams, avec 5,4 milliards de dirhams concernant la reconversion de l'irrigation localisée sur 82 817 hectares. Et puis l'extension de l'irrigation sur 86 650 hectares. Donc voilà, c'est des grands projets structurants, c'est des grands projets très importants. Ce projet-là, de la reconversion de 82 817 hectares, l'approche qui a été réalisée, on parle de la reconversion collective et puis de la reconversion individuelle. C'est quoi la reconversion collective ? La reconversion collective qui va se faire sur 43 317 hectares, elle consisterait à la transformation des anciens systèmes à de nouveaux systèmes qui vont s'adapter à l'irrigation localisée depuis la mobilisation, la station de pompage, jusqu'à la prise de l'agriculteur. Donc toute la panoplie des équipements, ils passent. Donc la station de pompage, les conduites et le réseau de distribution. La reconversion individuelle, elle ne concernerait qu'à partir de la prise et l'équipement à la parcelle des agriculteurs. Et là, elle concerne 39 400 hectares. Avec deux approches différentes, bien sûr, selon que l'on est à l'intérieur des secteurs équipés, gérés par l'État, 23 400, ou bien que l'on est hors de ces secteurs équipés, on parle, nous, de zones favorables sur 16 000 hectares. Quels sont les objectifs de tous ces travaux de reconversion ? Donc, d'abord, l'augmentation et l'amélioration de l'efficience de l'irrigation à la parcelle. Parce que le gravitaire, actuellement, compte tenu de tous ces problèmes que nous avons et de l'aspersion, on souhaite faire passer cette efficience de 50 à 90%. Puis, bien sûr, d'améliorer les revenus des agriculteurs. Et ensuite, la possibilité de diversifier les cultures et introduire des cultures à haute valeur ajoutée. Quelles sont les lignes directrices de tous ces travaux de reconversion ? Les lignes directrices, c'est-à-dire que le mode d'irrigation à adopter, c'est l'irrigation localisée. La livraison d'eau, ça va être à la demande. Et vous imaginez très bien qu'on va passer des secteurs gravitaires qui sont autour d'eau à l'irrigation localisée qui va se faire à la demande. La pression au niveau des prises sera de 3,8 bars pour permettre aux agriculteurs d'installer leur système d'irrigation à la parcelle. Et puis, les prises au niveau des parcelles des propriétaires vont être des prises individuelles. Parce que nous avons actuellement, au niveau des secteurs aspersifs, des prises qui sont communes à plusieurs agriculteurs. Parce que nous avons hérité ça du système dirigiste de l'époque, où on avait aménagé un sol de 10 à 12 hectares, commune à plusieurs agriculteurs. Et puisqu'on était dans un système d'obligation des assolements, les agriculteurs irriguaient en même temps, donc ça ne posait pas de problème d'avoir une prise collective. Maintenant, avec la libéralisation, on a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui avec ceci. Avec deux défis majeurs qui se sont posés très tôt à ces projets de reconversion. Le premier projet, c'est l'exploitation des emprises publiques, parce qu'il faut, les réseaux existent déjà, il fallait installer de nouveaux équipements, il fallait installer de nouveaux réseaux, et donc on a voulu utiliser au maximum les emprises qui existent, les emprises publiques, pour ne pas avoir à exproprier les gens. Et un deuxième défi, c'est la gestion de la phase transitoire, parce que les agriculteurs, ils vont continuer à irriguer pendant toute la phase de nos travaux. Et donc, on appelle ça la phase transitoire. Donc, les assolements projetés, on voit très bien qu'on avait déjà des secteurs qui étaient équipés pour un système de culture donné. On est en train de changer vers un autre système, mais on garde un certain nombre d'impératifs qui ne vont pas changer. Les débits des stations, les débits des prises, etc. Et donc, les nouveaux assolements projetés, c'est des assolements qui ont tenu compte de la carte d'évocation des sols, les orientations du plan Maroc vert qui a redynamisé toute l'agriculture et à travers lui sont le plan agricole régional, donc qui prévoit l'extension des superficies, nouvelles superficies irriguées, l'intensification et la valorisation d'un certain nombre de cultures, l'introduction de la production de riz, et surtout des semences de riz alors que le riz déjà a été introduit, l'intensification et la valorisation de la production laitière et de la viande rouge bovine. Bien sûr, tout ça, sont nous les techniciens qui ont réfléchi à tout ça. À côté, il y a les désirs des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont un certain nombre de désirs qui sont encouragés aussi par les encouragements de l'État pour la réalisation de l'arboriculture, pour le maraîchage, etc. Mais pas tout ça, il est conditionné par la phase de la libéralisation. Nous sommes donc dans un système libéral et donc c'est la loi du marché qui dicte la loi concernant ces assolements. Et donc on est en train de faire des projets aujourd'hui à la base des assolements, un certain nombre d'assolements, qui peuvent s'avérer avec le temps être que des assolements hypothétiques. Donc, un deuxième niveau auquel on s'était confronté au départ de cette reconversion, sont quels sont les degrés de liberté à accorder aux agriculteurs pour la desserte de l'eau, au niveau de leurs bornes, au niveau des prises. Donc, les débits des prises, ils étaient inchangés parce qu'on est en reconversion. On ne va pas construire les débits, ils étaient déjà connus au départ, ils servaient d'aspersion. Les débits des stations, c'est la même chose. Les agriculteurs, ils étaient catégoriques, tout le monde voulait des prises individuelles. Donc, il y avait une forte sollicitation de la part des agriculteurs, ils ne veulent pas posséder des prises entre usagers. Le tour d'eau, lui aussi, il a été refusé. Et le débit d'équipement qu'on avait retenu pour ce projet, 1 litre/seconde hectare. Et on avait une expérience. Les agriculteurs eux-mêmes, ils avaient déjà procédé à la reconversion de 450 hectares à travers des coopératives, où les débits de prise, ils étaient multipliés par 3. Et ils devaient irriguer entre eux par un système de tour d'eau. Chose qui n'a pas été respectée et chose qui a toujours soulevé quel est le degré de liberté à accorder pour ces travaux de reconversion. Actuellement, l'état d'avancement de ces projets, donc sur le 43 417 hectares dites pour les études, toute l'aspersion elle a été achevée, et pour les 20 926 hectares d'irrigation gravitaire, nous sommes à 55%. Pour les travaux, nous avons une première tranche qui s'achève de 9 400 hectares cofinancée par la Banque européenne d'investissement, et on vient de lancer une deuxième tranche de 5 100 avec l'appui financier de la Banque mondiale. Les équipements qui ont été mis en place, donc l'équipement déjà de 9400 hectares, il a nécessité la mise en place d'un équipement très complexe. Donc nous avons repris tous les équipements électromécaniques des stations de pompage. On a installé de 3 nouvelles stations de filtration. Nous avons installé des variateurs de vitesse pour pouvoir gérer les faibles demandes. Et une dizaine de ballons de régulation. Et puis une installation d'un réseau de conduite de 343 km. Donc en plus de tout ça, nous avons installé 700 bornes d'irrigation localisées à côté de ces bornes collectives. Nous avons aussi installé pour les 9400 hectares 4000 prises individuelles. Vous imaginez, pour moins de 10 000 hectares, 4000 prises à peu près en moyenne de 2,5 hectares par prise, ce qui rend très difficile la gestion. Donc les prises individuelles, elles ont été déportées en tête de propriété des intéressés. On a tout mis dans un regard en béton tel que celui-là. Et malgré tout ça, nous constatons un problème de vandalisme sur des prises qui n'ont pas encore fonctionné à ce jour. Donc, ce qui repose à travers tout ça, la nécessité de repenser la maintenance pour l'irrigation localisée, caractère urgent des interventions dues au stress hydrique, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on a été habitué à un système gravitaire, on était habitué à un système paraspersif. Et bien sûr, nous arrivons maintenant, tout ça, c'était les équipements à la charge de l'État qui étaient réalisés par l'État. Maintenant, on est au niveau des prises, les agriculteurs, ils doivent finir le reste du travail. C'est-à-dire, ils doivent procéder à l'équipement de leur parcelle. Donc, tout l'équipement à la parcelle va se faire à la charge des agriculteurs, mais avec un financement de 100% dans le cadre du Fonds de développement agricole. Donc, ce sont des subventions. Parce que là, on est dans des périmètres collectifs. Donc, ça, on parle de la reconversion individuelle dans les secteurs qui sont reconvertis par l'État. Donc, l'approche participative a été privilégiée avec un accompagnement continu de la part de l'Office de ces agriculteurs pour la reconversion. Les travaux ils sont en cours maintenant sur 1500 hectares avec un montage de 1800 hectares de nouveau à partir de cette année, ce qui nous fera à peu près 3500 hectares sur les 10 000 hectares qu'on a déjà nous reconvertis en termes d'équipement externe. Donc tout ça nous renseigne sur la lenteur des réalisations malgré les efforts qui sont fournis par l'Office, et surtout tout ça va avoir un impact sur la durée de transition. Parce que vous imaginez très bien que les agriculteurs, ils auront la prise aspersive, il y a toujours la prise aspersive qui est là, et à côté, ils auront des prises d'irrigation localisées. Donc, ils vont se trouver avec deux prises en même temps, ce qui risque de vraiment de complexer le fonctionnement du système hydraulique. À côté de la reconversion dans les périmètres collectifs dont l'Office avait entamé lui-même les travaux d'aménagement externe, nous avons la reconversion individuelle qu'on avait dit tout à l'heure. Il porte sur 39 400 hectares où les subventions, c'est réalisé à partir d'une initiative privée. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui font les demandes de reconversion, qui choisissent leur bureau d'études et qui suivent les travaux avec les sociétés de travaux. Donc, sans l'intervention de l'État. L'État, là, il ne fait que valider les études, l'examine et valide les études. Il suit les travaux pour voir ce qui sont corrects. Et puis, il réceptionne les travaux. Ils font la réception définitive pour accorder les subventions. Et là, on voit que la dynamique, elle est beaucoup plus importante parce qu'on voit là, à partir de 2008, l'année de l'avènement du Maroc vert à 2015, là, ils ont installé 17 924 hectares. Contrairement à ce qui se passe dans les périmètres collectifs, on est à 3 500 hectares en projet qui est en cours de finalisation avec un coût d'investissement de 914 millions de, millions de dirhams. Mais tout ça, cette reconversion individuelle en dehors des secteurs gérés par l'État, ne se passe pas sans inconvénient. Donc on constate que la pratique de l'irrigation elle se fait sans le respect de normes d'irrigation localisées, donc il n'y a aucun respect. On constate de la dégradation des matériels et en absence de l'entretien, et on constate des problèmes quant à la gestion des déchets par les usagers pour le PVC et le PHED. Et la problématique de drainage et d'assainissement n'est pas prise en compte dans ces projets, sachant que la région du Rhin est une région très pluvieuse où il y a un excédent d'eau à évacuer pendant la période hivernale. Je vois que le modérateur me lève, il me reste une minute, donc, et ça tombe bien parce que j'arrive à la conclusion aux recommandations. Donc, nous, on attend à ce que les premières mises en eau des secteurs vont nous renseigner sur les choix techniques qu'on avait discutés, que je vous ai présentés, en termes de degré de liberté, de variateur de vitesse et de mode de desserte. Est-ce que les choix que nous avons faits s'avèrent judicieux ou pas? Ce sont avec les années qu'on va pouvoir analyser sur le terrain tout ce qui a été entrepris, on va pouvoir comparer les expériences. La durabilité de l'irrigation localisée passerait d'abord par une meilleure exploitation du système et de la réalisation des entretiens et du renouvellement nécessaires. Donc l'accompagnement des agriculteurs lors de première année de mise en eau, il s'avère adéquat. Donc on ne va pas dire que nous avons terminé parce que les agriculteurs, ils ont de l'eau à leur parcelle. Je pense qu'on vient de commencer. Il faut un effort continu et doit être renforcé. La période de transition pour l'équipement en terre doit être écourtée au maximum pour ne pas entraver le fonctionnement hydraulique des réseaux et assurer la rentabilité des investissements. Parce que les prises aspersives, ils sont restés là, et gravitaires, ils sont restés là parce qu'on était dans la phase de transition, parce qu'on ne savait pas à quelle année ils vont se reconvertir. Mais c'est pour cela qu'il va falloir fixer, il serait utile de fixer le seuil de basculement du système. On dirait que lorsqu'on a 50% de superficie qui est reconvertie, on passe au nouveau système d'irrigation localisé, ou bien 70%, ou bien 60%, il faut trouver des seuils pour le basculement des systèmes. Mais je pense aussi qu'il serait nécessaire de penser à un cadre juridique pour accompagner les reconversions collectives et individuelles. Parce qu'il faut qu'il y ait un contexte, un cadre réglementaire qui réglemente tout ce qui peut arriver à ce matériel qui est mis à la disposition des agriculteurs en termes de prise individuelle, ou même en termes d'équipement au niveau de leur exploitation. Et puis, il faut repenser l'approche à utiliser pour le drainage souterrain dans le cas du localisé, parce que le drainage a été conçu pour le système gravitaire et par aspersion. Le localisé, c'est tout autre chose, et donc il serait opportun de repenser le système. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Thank you very much. I think it's going to be a very difficult task to translate a very rich presentation in 1 minute. So the presentation was about the conversion from surface irrigation to drip irrigation in the northwest public irrigation system in Morocco, the GARB, which, if I remember well, the irrigated area at the moment is over 100,000 hectares. The objective of the conversions were to increase the efficiency of water use, increasing farmers' revenues, and also diversification of crops. And there is two modalities under which this transition is happening. First, a collective reconversions that's subsidized and invested by the states, as well as individual conversion with bigger farmers developing drip irrigation systems. The last one of which is much more rapid, if I understood well, than collective drip irrigation conversion. So I think there was among things that were highlighted were the questions about which kind of crops to promote, given the liberalization of markets and the fact that the government and farmers do not have a full control over which kind of crops they can sell. The question of the degree of freedom to give to farmers and notably a strong request to have individual farm turnouts from which on which they can work, which makes the system very difficult to manage. Numbers were about like 4,000 farm turnouts out of 10,000 hectares, which is very difficult to manage. So there was call at the end for a few kind of recommendation: a need to shorten the transition period during the conversion, the need to have a legal framework to support this kind of both collective and individual conversion to drip irrigation, and the need to rethink drainage as well, because drip irrigation, you do not have the same dynamics than with the flooding or gravity irrigation. I think I'll stop there. It is incomplete, but I don't want to take more time. Thank you.
Merci. Si vous avez des questions tout de suite pour éclaircir l'intervention de Monsieur Taki, n'hésitez pas. If you have any question, please. Est-ce que vous pouvez faire circuler le micro, s'il vous plaît? Merci. So, everyone.
Bonjour. Vous n'avez pas parlé de comptage et de tarification, donc de fonctionnement du système, alors que manifestement sur la maintenance, il y a un sujet à traiter. Est-ce que, en parallèle donc de ces nouveaux aménagements, il y a aussi un travail qui est fait sur le comptage pour faire respecter la répartition de l'eau, et comment le système fonctionne en termes de redevances?
Attendez, on va prendre plusieurs questions. On va prendre d'autres questions, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Jean-Louis Janin à Bordeaux. Est-ce que vous pourriez être plus explicite sur la différence entre le drainage des sols qui sont déjà peut-être drainés, en tout cas la problématique du drainage des sols qui sont irrigués par aspersion ou par gravité, et celle que vous découvrez en ce moment pour les terres qui sont irriguées en irrigation gravitaire, en irrigation localisée? J'avais une autre question, quelles sont les cultures qui sont sous irrigation localisée?
Peut-être une dernière question. Le monsieur, juste là.
Merci. Hervé Ouedraogo, IOMO, Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à la pollution induite par les équipements goutte à goutte? Vous en avez parlé, mais un peu en superficiel. Merci.
There will be time. On va s'arrêter là pour les questions. Il va y avoir du temps à la fin pour de plus amples interactions.
Pour la question du comptage, d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ma présentation. Compte tenu du délai qui nous a été imparti, 20 minutes, on ne peut pas dire se détailler beaucoup davantage. Pour la question de la facturation. La facturation, jusqu'à présent, dans le secteur collectif, dans les secteurs collectifs de reconversion. Le premier secteur qui vient d'avoir mis en eau quelques hectares, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas dans leur arbre. Leur arbre, donc la première mise en eau, il va être faite incessamment, on ne l'a pas encore faite. Et donc, de départ, on va adopter la même approche d'irrigation par aspersion. Donc on va continuer à la tarification sera faite sur la même base que l'irrigation localisée sera comptabilisé, les redevances seront calculées sur la même base que l'irrigation par aspersion. Mais en attendant, il va falloir repenser tout ça, quoi. Parce que je sais qu'il faudrait tout entamer une réflexion, parce que les agriculteurs attendent à ce que la facture doit baisser, quoi. Parce qu'ils pensent à ce qu'on va, les hauteurs, les côtes piézométriques, l'irrigation par aspersion ne sont pas la même chose que l'irrigation localisée. On passerait d'un système de 7 bars à un système de 5 et quelques. Donc on va gagner sur l'énergie, en principe. Mais il y a tout un travail de tarification à faire, je suis d'accord avec vous. Pour la question de drainage, la plaine du Rab, c'est l'une des plaines caractéristiques du Maroc dans la problématique du drainage. Et donc, le drainage, nous avons un drainage souterrain avec des tuyaux enterrés à des profondeurs avec un débit de avec la côte de départ est de 1,5 mètre de profondeur. Et donc, ça peut arriver jusqu'à 1,8 mètre de profondeur. Ça, c'est les tuyaux du drainage en PVC, annelé, etc. Le problème, c'est que les quantités qu'on disait être pléthorique pour l'irrigation gravitaire, l'irrigation par aspersion, il contribuait efficacement à la réalisation du lessivage. Donc il permettait de faire du lessivage. Alors qu'aujourd'hui, avec l'irrigation localisée, donc l'approche, si on veut conduire une bonne irrigation localisée, c'est qu'il n'y aurait pas de drainage. Donc il y aurait des apports au pied des plantes, ça va, il y aurait l'évaporation, il y aurait accumulation de sel au niveau de la zone racinaire. Et donc, puisqu'on hiverne, nous avons des sols très argileux, très gonflants, et donc on a des problèmes de perméabilité en hiver. Donc nous avons des stagnations. Et donc c'est pas, il ne faut pas compter sur les précipitations hivernales dans le sol argileux du Gharb pour faire le lessivage. Le lessivage, il faudrait que ça passe obligatoirement par un réseau de drainage. Et donc le drainage est pendant l'été, c'est la période estivale. C'est pour cela qu'on dit qu'il serait opportun de repenser ce système de drainage. Les difficultés sur l'environnement. Donc on sait très bien que l'irrigation localisée consiste en un apport très important de matières plastiques, de PVC et de polyéthylène. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Le matériel rebuté, on peut le trouver même dans les parcelles. Dans les secteurs d'irrigation, dans les zones d'irrigation individuelles qui ne sont pas gérées par l'office, qui sont à l'extérieur du périmètre de grande hydraulique, on peut trouver les bouts de polyéthylène en marchant dans les salles des agriculteurs. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent même les ramasser, les récupérer, et puis ils sont recyclés. Mais tout n'est pas recyclé. Et donc, un des problèmes majeurs aujourd'hui qui risque d'être posé et qui se pose déjà, c'est le devenir de toutes ces matières plastiques et de tout ce PVC. Et donc, c'est pour cela qu'on pose le problème du sujet environnemental. Merci. J'espère avoir répondu fidèlement à vos questions.
Merci beaucoup. On va devoir malheureusement passer à la deuxième présentation. Donc, Monsieur Jamel Latrèche, qui va nous présenter something on technical and social innovation in arid zones with an aquifer in Sahara septentrional Sahara.
Merci, bonjour à tous. Je vais vous faire part d'une expérience plutôt de l'utilisation de l'efficience de l'irrigation pour lutter contre la surexploitation d'une nappe. Bon, le Sahara septentrional, c'est un bassin d'un million de kilomètres carrés partagé par la Libye, l'Algérie, la Tunisie. Les réserves théoriques sont de 60 000 milliards, ça paraît énorme. La recharge est d'un milliard de mètres cubes. Les réserves sont considérables, mais faiblement renouvelables, et les contraintes sont nombreuses. Il y a le coût des forages qui peut aller de 10 mètres à 3000 mètres. Il y a le coût de l'énergie qui devient de plus en plus cher compte tenu de la profondeur de plus en plus importante des pompages. Et il y a le risque de salinité des eaux et des sols. Notamment ici, le risque de salinité des eaux limite le volume d'exploitation. C'est pour ça que si on va au-delà de 5 milliards de mètres cubes, on va vers une catastrophe assurée. Voilà comment ont évolué les points d'eau en 60, en 2000, en 2012. On était de 50 à 60 points dans les années 60, et là on est à 9000 points d'eau. Et la ligne rouge a été franchie en 1980, date à laquelle on est entré en phase de surexploitation. Les conséquences, si on continue dans ce type d'exploitation actuelle, on aura une salinisation des eaux, une disparition de l'artisanisme, donc du recours au pompage, des hauteurs de pompage excessifs, la diminution des exutoires qui alimentent les nappes côtières, le tarissement de systèmes traditionnels comme les fogaras et l'intrusion saline, aussi bien en Libye qu'en Tunisie d'ailleurs. On a fait des premières études, des approches, disons, d'études socio-économiques et environnementales et qui sont arrivées aux recommandations suivantes. C'est la nécessité de passer à de nouvelles technologies, revoir la stratégie d'irrigation, valoriser les ressources non conventionnelles, mener des études quantitatives sur le prix et les coûts, promouvoir une stratégie de la demande et enfin, aller aussi vers une bonne gouvernance. Sur cette base-là, On a vu aussi que les défis à relever dans la zone, c'est une population qui est de 5 millions qui va passer à 8 millions en 2030, des superficies irriguées de 300 000 hectares en 2012 qui risquent de passer à 500 000 hectares en 2030. L'augmentation de la température et le changement climatique, je ne vais pas en revenir. La réduction de la pluviométrie signifie aussi une réduction de recharge, donc un besoin de plus en plus accru au recours aux eaux souterraines. Il y a la baisse de la productivité agricole qui engendre toutes les conséquences relatives au chômage, à la migration et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ça pour dire que la politique de l'offre a atteint ses limites. Et il était temps de passer à des solutions alternatives. C'est-à-dire, la réponse hydraulique ne peut plus résoudre aucun problème. Et quel que soit le type de réponse hydraulique, on ne va qu'aggraver les situations. Les premières solutions alternatives qui nous ont paru acceptables, mais dont la mise en œuvre prendra peut-être du temps, c'est la valorisation économique de l'eau, l'efficience de l'irrigation, la déminéralisation des eaux saumâtres. Et la région est truffée de puits avec une eau minéralisée et le recours à l'énergie solaire. Dans cet objectif, on a réalisé une étude à deux composantes. La première, elle est à composante socio-économique. Il s'agissait d'enrichir les données hydrauliques par des données socio-économiques et environnementales. Et comme l'agriculture consomme 80%, l'usager, l'irrigant est à la source aussi de la dégradation de qualité. Donc il était nécessaire de mener une enquête pour avoir une meilleure connaissance du comportement de cet irrigant. Donc, sur cette base, je vais aller rapidement, on a réalisé 4500 enquêtes et on a constitué une base de données considérable. Et on a déterminé les facteurs qui impactent la productivité de l'eau. Bon, ces facteurs paraissent évidemment naturels, mais l'originalité de notre étude, ce qu'on a essayé de faire, c'est sur la base des données des enquêtes et sur la base d'études économétriques assez poussées, on a pu, quantifier l'ampleur des phénomènes naturels qui étaient attendus. Alors, le grand fléau, c'est le premier, c'est le prix de l'eau. L'analyse a montré que un prix de l'eau qui passe du simple au double assure une réduction d'environ 60%, mais en vérité, elle va de 20 à 60% selon les méthodes d'étude de désagrégation des échantillons. Donc voilà, c'est une niche et on paye l'eau mais on a la plus chère, on la consomme moins et on a une meilleure productivité en mètre cube. Le prix de la ressource augmente 200%, la productivité croît de 7 à 17. La salinité, voilà, c'est le phénomène le plus important. La salinité affecte gravement la productivité qui baisse entre 67 et 80%. Ça pour une salinité qui va de 1 à 2 grammes ou bien de 2 à 4 grammes au maximum. Au-delà, la situation est incontrôlable. On a vu aussi que l'actif familial par hectare, l'actif est d'ordre familial, ça permet d'augmenter la productivité. Les systèmes qui valorisent le mieux l'eau sont, du moins dans le Sahara septentrional, le système à culture maraîchère, c'est sériculture, le système oisien classique, le système à dominance élevage, tandis que le plein champ, essentiellement la céréaliculture, l'arboriculture et les systèmes oisiens se caractérisent par une très faible productivité de l'eau. Donc, ça, à travers ces résultats, ce qu'on voulait montrer, c'est que dans toute gestion de la demande hydraulique, il faut intégrer les instruments économiques dans le cadre de cette gestion. Ensuite, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire à travers des pilotes de démonstration. Les pilotes de démonstration, on n'invente rien. C'est-à-dire que chaque pays a choisi deux thématiques. Ça a été deux thématiques par pays. Et on a essayé de voir, de démonstration grande nature, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de l'eau d'irrigation avec des techniques adéquates qui sont connues. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a choisi de faire ça avec les agriculteurs eux-mêmes, dans le cadre d'un choix et avec une gestion participative. On a pris 6 pilotes de démonstration, 2 en Algérie, 2 en Tunisie, 2 en Libye, avec des thématiques de la sauvegarde des systèmes existants dans des systèmes traditionnels de Fogara, des systèmes de certains systèmes de pénurie d'eau, des systèmes où on a l'abondance de l'eau mais on a d'autres problèmes, des systèmes de sauvegarde des productions irriguées. Et le, je ne vais pas tous les citer, mais surtout le 6, c'est l'utilisation des osomatres en irrigation. Je vais vous faire part rapidement des travaux réalisés, de ce qu'on a eu. Donc, ici, on avait les systèmes traditionnels de Fogara. Ben, généralement, quand on parlait de Fogara, il y en a 3000. Comment les appuyer, comment les aider à mieux produire? On augmentait tout le temps l'eau. On augmentait tout le temps le volume de l'eau, mais les problèmes restaient les mêmes, parce qu'on a travaillé à l'aval pour amener l'eau, mais on n'a rien fait on a travaillé à l'amont pour amener l'eau, mais on n'a rien fait à l'aval. Alors cette fois-ci, ce qu'on a fait sur un hectare, avec plusieurs agriculteurs autour, on est passé au système du goutte à goutte, et on a mis la mise en place de cultures intercalaires. Le résultat, ça a été une importante économie d'eau, un doublement de la superficie irriguée, un taux d'intensification passé de 30 à 50%, une forte demande de réplication de la part des agriculteurs en acceptant de faire les investissements eux-mêmes. Et là, vous avez la parcelle avant projet et la parcelle après projet. Là, c'est un système dans la région de Loir-et-Cher où le problème, c'est qu'il y a l'eau est abondante, mais l'absence de drainage amène des situations alarmantes. C'est la remontée des eaux par hydromorphie et la salinisation des sols. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit, on a mis en place un système de drainage enterré et on a mis un système d'irrigation de goutte à goutte, ce qui a permis, au niveau de l'hectare, bien sûr, une baisse du niveau de la nappe de 30 à 50 cm, une chute de la salinité dans le réseau de drainage, une augmentation presque à 100% d'occupation des sols, une augmentation des rendements de l'individu, et une amélioration du revenu de l'exploitant. C'est-à-dire, au niveau de cette exploitation, au bout de 2 ans, l'agriculteur s'est dit accepté à ne plus demander l'aide de l'État, mais de financer lui-même son propre forage. Bon, ça peut être exceptionnel, mais c'est un cas réel. Bon, voilà le réseau de drainage enterré, le réseau d'irrigation, là, je vous fais part, et puis la situation avant-après. Là, au niveau de la Djeffara, ça c'est une. Il y a assez d'eau, il y a de l'eau salée, il y a de la bonne qualité d'eau, mais il n'y avait pas de valorisation. Donc on a installé le goutte à goutte et on a procédé à un changement du calendrier d'irrigation. Il y a eu une amélioration de la rentabilité de l'exploitant et une maîtrise de la salinité des sols, une économie aussi d'économie d'eau. Là, on a un problème dans la région de Kébili en Tunisie. Le problème, c'est que c'est un problème de drainage. Comme il n'y avait pas de pente, donc le drainage était impossible à l'état naturel. Donc on a recouru à l'énergie solaire pour refouler les eaux de drainage. Et bon, les résultats, malheureusement, cette expérience n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y a une collapse de forage, mais un rabattement de la nappe et il y a un processus de dessalement des sols qui a été entamé. Là, dans la région de la Djeffara, on a recours au dessalement, bon, moi j'appelle ça déminéralisation partielle de l'eau de 4 à 2 grammes. Il y a au moins 5000 puits avec une eau minéralisée. Certains puits sont abandonnés, d'autres étaient en cours sont toujours en fonctionnement. Mais le résultat, c'est une salinisation croissante des eaux et une salinisation croissante des sols. Donc, face à cette situation, on a installé une station de déminéralisation, on a intensifié les cultures. Et on a procédé au changement de calendrier d'irrigation, c'est-à-dire on leur a conseillé d'abandonner les cultures d'été. Et là, les résultats ont été spectaculaires, du moins au niveau de l'hectare. Une amélioration nette de la production, un meilleur rendement des oliviers, une rentabilité du système de dessalement au niveau de l'hectare.
Encore une minute.
Là, je passe à la conclusion. Les pilotes de démonstration, ils ont montré la durabilité à travers des techniques d'irrigation adaptées, une meilleure valorisation des ressources en eau et le recours à l'énergie solaire. Et la conclusion, c'est que les actions pour parvenir à une meilleure gestion des ressources en eau, c'est continuer à comprendre le comportement de l'exploitant, emploi des techniques d'irrigation culturelle adoptées, une valorisation des eaux thermales au saumâtre, ça, il y a un gisement à faire. Et je n'ai pas parlé aussi de la possibilité de récupérer les eaux de drainage. Donc, c'est la promotion de l'énergie solaire. Est-ce qu'elle n'est pas rentable maintenant que les forages sont à, par exemple, 500 mètres avec des pompages à 150-200 mètres et ça va de plus en plus accentuer dans... Et pourquoi ne pas réfléchir à une mise en place d'une tarification de l'eau qui ne pénalise pas l'usager, mais qui incite à une meilleure valorisation de l'eau. Donc, pour valider tout ça, parce que ça a été fait à une échelle très réduite, donc peut-être pour les expériences faites à l'échelle réduite, passer à une plus grande échelle, c'est-à-dire le passage d'un système de culture à un système de production, pour voir tout ce qui va avec, les conséquences, le rejet des saumures, le problème de commercialisation, le problème de marché. Peut-être ce qu'il y a à revoir aussi, c'est la politique du foncier, avec les héritages successifs. Il y a des parcelles de 100 hectares qui sont devenues à deux petites parcelles de moins d'un hectare. Et l'intégration d'instruments économiques pour la gestion d'une ressource aussi rare. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup. Thank you very much. So this was a presentation on the northern part of Sahara, where there is a large stock of water resources, groundwater resources, but that are very difficult to tap for questions, economic questions. High cost of exploitation and a risk of increased salinity. There were some graphs that were shown about the fact that the wells kind of multiplied over the last 20 years with over-abstraction starting in 1980. So on this basis, the presentation was made to try to test several hypotheses about the use of new technology, the use of non-conventional water resources such as brackish water, the use of economic goods to rationalize water use, and to try to implement water demand management and good governance tools. So what has been done was try first to do some socioeconomic surveys to better understand the way farmers make decisions. The main conclusion of those surveys was the fact that increase in water price can lead to a decrease in water use and increase in productivity. The fact that salinity is a strong factor that affects productivity negatively. And the fact that the most productive system that's better use water are like traditional oasis systems, vegetable production under greenhouses, as well as livestock systems, open field vegetation being the less both productive and efficient in that context. So then six pilots were implemented in the three countries, two per countries. I will not go into the details of them, but they all mixed kind of technological and social experiments with notably the development, the transfer of, introduction of drip irrigation, as well as the promotion of intercropping. All of them had the effect of increasing the productivity of the systems and also decreasing salinity, which is a huge problem then. And there is the last slide is about the need to extend those pilots on larger scales, maybe addressing issues of land tenure, given the division of land among family descendants, and the need to use economic tools to rationalize and diminish water use. Thank you.
Merci, Jean-Philippe. Des questions? Any questions? What are the moment? At the end of the half day, perhaps? Okay, thank you. There is one question.
Oui, je voulais savoir si dans les expériences que vous avez montrées, la diffusion de l'irrigation localisée pouvait conduire à une extension des surfaces irriguées et donc, in fine, à plus de pression sur les ressources en eau.
Micro.
The question is whether in the area considered the use of drip irrigation leads to extended irrigated areas and higher pressure on water resources.
Disons, je suis hydrogéologue, je ne suis pas agronome, mais je peux déjà vous dire que c'était la même surface. Mais même en occupant les surfaces intercalaires, avec le goutte à goutte, on utilisait moins d'eau qu'avec le gravitaire.
There hasn't been any increase, and even by developing intercropping, there was less water use.
Merci, Monsieur Latrèche.
Merci. Donc the next speaker is Alice Rachmadou from the SCP. She's going to talk about la conversion au goutte à goutte, des questions d'interface entre les agriculteurs et les gestionnaires de réseaux.
Alice. Le pointeur au milieu, et ça c'est pour faire passer les dires. Et ça c'est comme le pointeur.
Bonjour à tous. Good afternoon. I'll do the presentation in English for the English-speaking persons, though I'm a French national, so forgive my mistakes in English, if so. So, just I have to get used to this. The topic of our paper presented today is to see how... Attendez. During modernization process of large-scale irrigation systems, how the interface between the farmers' practices and the managers' practices are important if we want to reach out the common aim of saving water. I will base this intervention on two case studies which my company, SCP Company, has been working on in two arid countries with a lot of stress on water resources, Jordan and Tunisia. In Jordan, our case study is based on the IOJOF project, Irrigation Optimization in the Jordan Valley, which was implemented from 2001 to 2012. At first, it was an action research project with pilot areas, and this project was then extended to a larger scale area, like 3,000 hectares. The Tunisian case is based on the project of support to water user associations, the GDA, in Tunisia, which started in 2013 and is still ongoing. So the idea of comparing these two countries and these two case studies is that we have, in both cases, a big stress on water resources, which leads the public and the government to move forward more and more water saving in its irrigation schemes. We have also, and it's a little the case like in Morocco, large public irrigation schemes which were developed in the last 50 years, and a permanent willingness to adopt water saving techniques. So just a brief on the location of the case studies. In Jordan, it's in the northwest part of the Jordan Valley, taking water from the Yarmouk River down to the Dead Sea. And in Tunisia, our project is in the northern directorates of Tunisia, Bizerte, Jendouba, Kerouan, and two others. And it concerns 70 large-scale irrigation schemes, covering more than 60,000 hectares. So my presentation will be first to introduce, for those who have not the chance to know either Jordan or Tunisia, the context of the two case studies. Then we'll see how modern the processes which were developed by mostly the governments to modernize or rehabilitate the large public irrigation scheme in the context of scarce water resource, having in mind the assumption that if you modernize the irrigation scheme, the farmers will follow with modern techniques at the farm level. And so we'll try to see how the thing went, actually. And as an opening of the discussion at the end, we'll see how accounting for diversity when we modernize irrigation schemes might be of good help if we want to achieve the final goal of water savings. So a little tour to Jordan first. Jordan Valley was, prior to the creation of the State of Israel, was a place without large irrigation schemes. In the 50s, due to the massive arrival of Palestinians from the West Bank, the government of Jordan, as well as supported by the international community, made large-scale infrastructure based on the diversion of the Yarmouk River at the border with Syria, diverted into a canal 110 kilometers long to irrigate 30,000 hectares at the beginning with gravity irrigation. So the objective was to settle the Palestinian population and to ensure food security for the Kingdom of Jordan. A public operator, JVA, Jordan Valley Authority, was implemented at that time and is still operating now to manage the area. So in this area, we had in from the 50s gravity canals, and as it was a top-down development project, there was a systematic découpage, splitting of the lands into units of 3.5 hectares distributed to the farmers. So we arrived to, this is one of the turnouts you see here. It's a very geometrical shape of the irrigation system. Everybody gets the same thing, and it's really the government decides what the farmers will grow. This was at the start in the 50s, and the system remained with open channels for at least 30 to 40 years, till the 80s. But during this period of time, the farmers did not react the same to the access to irrigation. In the northern part, for example, they developed, because the climate was allowing it, citrus banana plantations, which were very well adapted to the gravity irrigation system. In the middle of the Jordan Valley, the climate allows the installation of greenhouses. So there was the farmers having the capacity to invest shifted from family farm to entrepreneurial farm, to agribusiness. And the possibilities of having a technological package with what we call the super green revolution in the 70s, with fertilizers, drip irrigation system, greenhouses, and opportunities in the market, led those farmers to invest into drip irrigation very much prior to the modernization of the gravity system. So what do? They dig a pool, a reservoir, they take a diesel pump, and yalla, you irrigate directly from your reservoir. In Tunisia, starting from the 50s also, the objective of the Tunisian government was to develop large-scale irrigation, also for food security and development of the country. Same thing, the plan was a national scale engineering program to develop irrigated agriculture, shifting from 65,000 hectares to 400,000 hectares in 2015. At the start, different from Jordan, most of those irrigation schemes were pressurized since the start. A difference with Jordan is that there is a huge diversity in land ownership in those schemes. You have here a little picture. It's from one of the schemes in Kerouan region, where you have in one irrigation perimeter, sharing the same water, you have 143 farmers who manage 470 hectares and two big companies managing 1,150 hectares. So you have the diversity of the farming system is much more large than in Jordan. And in Tunisia, as you were a little like you were saying in Morocco, a planned economy for agricultural development and marketing chains was influencing the design principle of the networks. So you see, for example, here in winter and in summer, the planting area, the rotation, everything was calculated by engineers. And so this is, okay, this is the irrigation chain in Tunisia sharing the same water. Okay, so how the question is, when the time passed, the more and more scarcity of water became a difficulty. So both in Jordan and in Tunisia, from the 80s onwards, modernization of irrigation networks from open channels to pressurized systems occurred in Jordan. And in Tunisia, a national program of water saving was linked to procedures of rehabilitation of the networks. The thing is, in this modernization and rehabilitation processes, it's always trended by policymakers and engineers. I don't insult them, I'm one of them. The design principle is the farmers will follow. We modernize, and then they will connect, yallah, and they will use the water properly. In best cases, as you, for example, same case in Morocco, the government provides subsidy for equipments, little training to adapt water-saving techniques. The issue is when this system is so this is what we have seen when we arrived in the field in Jordan. Though a big modernization effort was implemented, the gravity system were shifted to pressurized irrigation system. Still, the conditions of service at the gates of the farm were not satisfying for the farmers. For the citrus farmers, there was no accompanying measures. The pressure, the flow is limited. The pressure is supposed to be here. But there is no subsidy to help the farmers invest into new systems. So this poor optimization, so actually in the citrus area, most farmers remain with surface system. And at the same time, in the drip areas where they have invested prior in drip irrigation, they actually never connected themselves to the irrigation system because the conditions of service were not satisfied. So actually, the whole process did not reach the aim of water saving. In Tunisia, when rehabilitation came, so it was pressurized system, which were damaged with time, rehabilitation is always seen in the same top-down approach. Like you have, for example, here, an FTA, a farm turnout. There is a division of the land. There are now two owners. We just divide by two. We put two different FTAs. But no changes were made at all inside the box. No flow limiters, for example, to reduce the flow and to adapt to the new conditions. So one question is, can we change this situation? Can we shift from a top-down design, which will actually not find its goal at the end? The farmers will not modernize so much, even though many efforts were done at the network level. So this is the experience we had in Jordan with the IOJOF project, trying to rehabilitate the whole network, trying to set new operation and maintenance procedures and give on-farm support to the farmers so that they will adapt to the system. And the conditions of delivery in the network level shall improve sufficiently that the farmers can connect themselves directly to the network. And you see on this chart this shift from surface irrigation to pressurized system. Unfortunately, on the long run, there is a difficulty to maintain this virtuous circle, as we called it. There is a kind of paradox where the farmer when it, once he understood the interest of having modern techniques, he will not want, if he will not be confident enough in the public irrigation system to trust it and to stay connected. So he will disconnect himself, digging a pool, storing the water, and be able to do his irrigation on farm as he wants. So, I'm sorry, it was too many information on two countries. But what we learn from these big modernization processes is that first you need to think the network organization and the network modernization and farmer practices alongside. Second, you have to define really what are the end users' needs. What do they prefer? Flow, pressure, frequency, whatsoever, and try to provide them that. But one issue is that irrigation at the farm level are constantly changing. As you were saying, liberal systems makes the farmers change all the time. So what are the capacities of the operators to follow up with this change, to stick with the change? For this, you need the capacity to analyze what's going on. You need the capacity to change your operation and maintenance all the time, alongside the evolution of the farming systems. And you need the capacity to renovate your system all the time. The last question mark I'm putting, of course, this costs money. And so are the farmers willing to pay for this evolution of the condition of service or not? Or if not, they are doomed to have a razor which will provide one service, but maybe not the service they are expecting. Thank you.
Merci Alice. Je ne vais pas traduire en français parce que vous pouvez lui parler après si vous voulez plus de renfort d'enseignement. Merci. Donc, if there is any questions in French or in English.
Thank you. It was a good presentation. I am Dr. Reddy from Hyderabad, India. In fact, in our country also we are taking measures like this to convert canal irrigation into micro irrigation as per the national water policy. She rightly said how the farmers will get interested to pay. For them, it is the how much returns they get, not the productivity. And here the government should see that what cropping pattern or what type of crops we are promoting, what is their marketing, how much net returns the farmer gets after investment would be the criteria. In fact, we are also looking that way because providing the systems to the farmers at subsidy is not only the solution. Beyond that, government should link towards production, processing, and marketing. So that will help the farmer's interest in participation of such projects. Yeah, that's what we are trying to do in India in big projects we are right now.
What was your question?
En vérité, c'est une question que je voulais poser au premier orateur, mais je vous la pose quand même à vous. Est-ce que vous avez une idée d'une, pour la transformation moyenne d'un hectare ou là, d'une surface irriguée pour le passage au goutte à goutte?
Combien ça coûte?
En moyenne.
Ouais.
On va prendre une dernière question.
I want to ask a question for how you deal about the problem when you are modernizing pressurized systems and try to reduce water use, and then you have at the same time sprinkle irrigation and drip irrigation with quite different pressure requirements. So maybe you save water, but then you are still spilling energy.
So first, I will answer to the gentleman from India. Indeed, there is a need when you modernize and bring subsidies to the farmers to take the whole package together. It's not only looking at the drip, but also looking at the conditions of market, etc. What I would answer not with, with the case study we have in Tunisia and Jordan, but with the case study we have in our own networks in France, where there is a continuous adaptation of the policies towards the farmers. You have, you know, the European Community policy to support farming systems, and we operator have to have to move with those changes. When I give you an example, there is a place in Provence you can come to visit. It's beautiful. Now it's full of lavender and wheat. In the past, when the EU policy was supporting seeds and corn a lot, all this area was planted with corn. When we developed our networks, it was for corn. Now it's lavender and wheat. So you imagine that the crop water requirements, the water needs are not the same at all. So this is a continuous dialogue between development policies, agricultural development policies, and irrigation development policies. If you, if I answered your question. The second one, c'était... Oui, le coût à l'hectare. En général, on dit que la modernisation du réseau, pour convertir d'un système gravitaire à un système sous pression, on va partir sur 10 000 euros par hectare, l'investissement, plus à la parcelle autour de 4 000 euros. Donc ça fait environ... Tout le système, 15 000 euros hectare. On peut faire moins cher si on discute. Ouais. Et la troisième question...
It's 15,000, but that's negotiable. Ouais.
Your last... Pardon, j'ai... La dernière question, c'était quoi déjà?
Comment tu gères sprinkler et drip?
Oui, I passed too fast on the Tunisian case where you have this difficulty of having sprinkler irrigation at the same time with drip irrigation and even pivot guns, etc. The difficulty is to have a system, a pressurized system, which will allow all those systems to work and at the same time to be sure that the biggest pipe doesn't get all the water. One difficulty when you have drip irrigation, you need low flow but high pressure. If you have guns or sprinkler irrigation, you need bigger flow. So if the system is not well organized, if you don't have, for example, a flow limiter, all the water will go to the sprinkler. And the drip irrigation will actually not be efficient. And so that's one of the objectives, is to have, as you were saying in Morocco, the two systems working together. Once again, this is what we have in our networks in Provence, where we have a good collaboration and partnership, and the different systems can be together in the same irrigation network, and it doesn't pose any problem. Now, for your question on water savings... depending on the crop, some crops for the moment are not very well adapted to drip irrigation. Like, for example, cereals, fodder crops. There are experiments of subsurface irrigation, etc. But all drip doesn't suit all the crop at the farm level. So we have to to leave space to the coexistence of different irrigation system at the farm level. I think if we want to achieve at the end good water savings for all those systems.
Merci Alice. Je crois que on a besoin de passer au présentateur suivant. Merci. Il y a un petit changement au programme. Carles, please, sorry. We're going to ask Mohamed Naouri to come. Sorry, it's not written in the program. Mohamed, si tu peux venir, il va nous présenter quelque chose sur la traduction du goutte-à-goutte quand l'utilisateur prend en charge l'innovation. So, translating drip irrigation when the user takes charge of innovation.
Bonjour à tous, je me présente, c'est Nori Mohamed. Je suis doctorant à l'ENSA, ainsi inscrit à l'IAV Hassan II au Maroc. Alors, je vais vous présenter un travail qui rentre dans le cadre du projet Groundwater Arena, ou un travail sur le groundwater economy dans les trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie. Et aujourd'hui, on va vous présenter le cas de la traduction du goutte-à-goutte ou du système d'irrigation goutte-à-goutte quand l'utilisateur prend en charge l'innovation. En fait, voilà, la présentation sera on va commencer avec une introduction, le contexte général, matériel et méthode, résultats et discussion. En fait, si on parle du système d'irrigation, le goutte-à-goutte en lui-même ou sa conception conventionnelle, en fait, le goutte-à-goutte, elle a été conçue par, entre guillemets, les ingénieurs, beaucoup plus pour être plus performant et par rapport aux conditions physiques liées à la plante, au sol et l'eau. Par contre, ce système il est beaucoup plus conçu pour les grandes exploitations individuelles et il peut être, ne plus être incompatible avec les pratiques des petits agriculteurs. Alors, la compréhension et la capacité d'innovation de ces petits agriculteurs ou petits acteurs sont indispensables pour pouvoir l'adapter à différentes situations rencontrées par ces petits utilisateurs. En fait, chaque système d'exploitation ou chaque système de production a ses particularités. En fait, ses points forts, ses dynamiques, ses forces et ses défis. Alors, la clé de la durabilité de ces systèmes de production, elle est liée aussi à la capacité d'innovation de ces acteurs. C'est-à-dire, on doit passer d'un système d'innovation verticale top-down, c'est-à-dire vers un système plus ouvert où l'utilisateur a le droit ou a la capacité de modifier ou changer ou adapter le système. Alors, les différentes recherches récentes montrent que le goutte-à-goutte est de plus en plus diffusé dans le monde, ainsi qu'en Afrique, ainsi qu'en Asie. Alors, où on trouve dans ces régions, c'est-à-dire beaucoup plus de petits agriculteurs que des grandes entreprises de production agricole. Alors, cela incite les acteurs locaux beaucoup plus à modifier et à adapter les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte à leur spécificité des territoires, ainsi que l'évolution de leurs besoins de développement agricole. Par rapport à la région d'étude, c'est la région de Biskra, qui se trouve dans le Sahara algérien. Elle est caractérisée par un climat saharien avec une température moyenne de 20 degrés, avec une précipitation moins de 200 mm par an. C'est une région vraiment aride, mais qui a connu vraiment durant les 30 dernières années, c'est-à-dire une augmentation très importante de superficie irriguée, et surtout durant les 15 dernières années, quand le goutte-à-goutte est arrivé sur cette région. Les superficies irriguées sont multipliées par 5 durant les 40 dernières années, ainsi que, c'est-à-dire il n'y a pas que le système de production traditionnel de palmiers dattiers dans cette région, mais il y a eu aussi l'introduction de systèmes de production maraîchers, c'est-à-dire l'utilisation de maraîchage, la mise en place des serres pour faire le maraîchage sur serre, où le nombre de serres s'est développé très rapidement durant les 30 dernières années. On est arrivé en 2010 à 100 000 serres. Et il y a aussi d'autres chiffres qui disent qu'on est aujourd'hui arrivé à 150 000 serres, mais ne sont pas encore dites officiellement. Alors, Biskra, qui a été le désert hier, aujourd'hui, elle connaît vraiment une expansion très importante de ce mode de culture irriguée essentiellement par les eaux souterraines. En fait, quand on regarde, on voit bien, c'est-à-dire le nombre de serres important, ainsi qu'on voit, c'est-à-dire on a une idée, ou plutôt on prend un premier constat que c'est plutôt homogène, en fait. Par contre, à l'intérieur, c'est-à-dire il faut passer, c'est-à-dire être objectif et passer à une analyse de l'innovation menée par ces petits exploitants, c'est-à-dire à l'intérieur de ce milieu en rapide évolution. Une autre étude a apporté sur des enquêtes sur terrain avec 42 agriculteurs. Petits agriculteurs, en fait. Alors, quand on a vu au départ, c'est-à-dire on a commencé par l'analyse du système d'irrigation lui-même, on s'est retrouvé je ne sais pas comment le terme marche, mais bon, voilà. L'autre, c'est le deuxième. C'est un système plutôt. On a vu le premier constat, c'était l'absence du bassin de stockage. ainsi qu'il n'y a pas de système de filtration et de fertigation centralisé au départ, mais aussi la présence d'autres ouvrages tels que la colonne d'eau qui se trouve après le forage, ainsi qu'un système de distribution qui irrigue en montant, c'est-à-dire les palmiers dattiers et l'ensemble, en ensemble de serres. Par contre, si on voit ça, c'est-à-dire on pense que c'est une exploitation individuelle avec un seul forage. Par contre, c'est en réalité, c'est tout un ensemble d'acteurs qui se trouvent à l'intérieur de ces exploitations-là. C'est-à-dire, nous avons le propriétaire terrien qui possède la terre et loue, et aussi qui loue des emplacements de serre pour des petits locataires, en fait. Et ce sont des arrangements entre le propriétaire et le locataire. Alors là, nous avons la location de terre et eau. Mais ces locataires-là, ils font appel à d'autres métayers qui font gérer ces serres-là. Alors, nous avons le propriétaire qui possède le palmier dattier, mais qui fait appel à des ouvriers qui sont aussi en contact avec les métayers pour la gestion de l'eau et des pratiques culturelles. Alors, si on voit bien le schéma, on se retrouve avec le propriétaire, les locataires avec un certain nombre de serres et des métayers pour 5 à 10 serres, en fait, de gestion. Alors, on peut se retrouver dans la même exploitation avec plus de 40 personnes qui travaillent ensemble, mais de manière décentralisée, en fait, qu'elles ne travaillent pas, en fait, ensemble. C'est-à-dire, elles ont besoin d'un système d'irrigation goutte à goutte qui peut offrir une gestion décentralisée de l'eau, une fertigation à l'unité de culture, parce qu'en fait, à l'intérieur de ces serres, on trouve de la tomate, on trouve des poivrons, on trouve, c'est-à-dire, des calendriers culturels très, c'est-à-dire, en décalage. Et un système jetable, pratique et plus simple. C'est-à-dire parce que nous avons des locataires qui se déplacent beaucoup. Alors, ils ont arrivé à faire une conception d'un système d'irrigation goutte à goutte plus simplifié et plus adapté à leur situation. On se retrouve aujourd'hui avec le système qui fonctionne avec un forage, un château d'eau qui sert pour la régulation, comme un système de régulation au lieu du bassin d'accumulation. Et des systèmes de fertigation avec des petits jarricains à l'unité de serre, en fait. C'est-à-dire la fertigation n'est plus appliquée à la station de tête, mais plutôt à l'entrée de la serre. Alors, pour le mode de fonctionnement, c'est-à-dire de ces deux parties, nous avons le château d'eau, où ça fonctionnement aussi principe de régulation, surtout pour offrir c'est-à-dire une pression constante dans le système d'irrigation. Elle sert aussi pour un système, c'est-à-dire parce qu'elle a un bord de débordement qui peut faire un système de sécurité pour le système d'irrigation goutte à goutte. Si on a une fermeture ou ouverture, c'est-à-dire en même temps de la totalité du van, ainsi qu'elle peut gérer pour faire une gestion décentralisée par les ouvertures et fermetures des serres de manière décentralisée. C'est-à-dire quand le tour d'eau passe au deuxième agriculteur, quand il ferme, nous avons le débordement. Donc, c'est un signe pour le deuxième pour ouvrir et continuer l'irrigation, c'est-à-dire après le deuxième. Parce qu'il fonctionne avec des tours d'eau bien définis dans les périodes de creuse. Système, c'est-à-dire, ils ont commencé par des barils superposés qui sont passés vers des systèmes plus sophistiqués pour arriver à un système de château d'eau. La colonne d'eau, elle appelle le château d'eau là-bas. C'est-à-dire un système plus amélioré pour avoir... ils ont passé de 5 mètres d'enterre jusqu'à 10 à 15 mètres pour offrir une pression supérieure à 1 bar pour le goutte-à-goutte. Pour le système de fertigation, ce sont des petits jerrycans qui font c'est-à-dire une simulation des systèmes de fertigation conventionnels où quand on ferme, c'est-à-dire la vanne qui se trouve au milieu, on crée une dépression, c'est-à-dire à l'intérieur de petits jerrycans pour faire passer les éléments fertilisants pour chaque serre. C'est-à-dire ça sert non seulement de manière technique de faire la fertilisation à l'unité de serre, mais aussi la gestion économique des dépenses par rapport aux différents métayers pour ces agriculteurs-là. Alors, pour la discussion, c'est-à-dire quand on discute ça, en fait, quand on parle des systèmes d'irrigation plutôt de goutte à goutte, low cost, c'est-à-dire on parle beaucoup des kits d'irrigation qui ont été proposés en Afrique, par exemple pour les petits agriculteurs, aux petits paysans. Par contre, ces systèmes-là n'ont pas toujours arrivé au succès, en fait. Par contre, c'est-à-dire, on se pose la question, pourquoi, c'est-à-dire, ce qui fait la différence entre ça et les systèmes low cost, c'était plutôt des kits préfabriqués qui ont été proposés aux agriculteurs pour un développement rapide, peut-être pour contre la pauvreté. Ce sont des systèmes peut-être plus rigides où, c'est-à-dire, on ne peut pas les manipuler. Par contre, ici, on se retrouve dans un cas où il y a eu une adaptation à une situation locale par rapport à différentes structures de l'exploitation, à la disponibilité des équipements. parce qu'en fait, en Algérie ou à Biskra, c'est-à-dire on trouve dans les magasins de fourniture, c'est-à-dire les systèmes à la carte en fait. C'est pas des systèmes un package, comment dirais-je, des kits préfabriqués. C'est-à-dire et l'agriculteur il choisit les différentes parties qu'il peut utiliser dans son exploitation. C'est-à-dire ils sont dans une logique, c'est-à-dire d'amélioration des performances et avoir un système jetable, flexible pour des rendements économiques très très rapides. Alors, la fabrique de l'innovation, c'est-à-dire, nous avons, c'est-à-dire pour un deuxième point pour conclure, en fait, c'est comment l'innovation a été fabriquée, c'est-à-dire comment l'innovation se fabrique. C'est-à-dire, les agriculteurs, en fait, ils commencent par une décomposition des systèmes d'irrigation goutte à goutte conventionnels, des équipements, entre guillemets, à technologie, et conservent le minimum vital, c'est-à-dire le minimum d'options qu'ils veulent avoir. Ils testent et améliorent progressivement ces systèmes par le réingénierie locale. Et puis, ces systèmes se diffusent rapidement parce que nous avons en fait des acteurs très mobiles dans un système vaste où, en fait, à Biskra, nous n'avons pas le problème de pénurie d'eau vraiment. En fait, parce que la ressource, elle est abondante, même si elle n'est pas vraiment renouvelable. Mais bon, le quatrième point, c'est un point important, c'est la mobilité de ces acteurs-là qui a fait aussi que ce développement important de l'agriculture, de l'irrigation goutte à goutte, elle est basée vraiment sur la mobilité de ces acteurs-là et leur capacité à s'adapter aux nouvelles situations. Et merci pour votre attention.
Merci, Mohamed. So, short translation. So the presentation started with the fact that drip irrigation system might have been designed by engineers mostly for large farmers, and that there was a need to understand the capacity that small farmers had to innovate and to use the technologies, and to recognize maybe the fact that innovation did not only occur from a top-down fashion, but in more an open systems. And there was a lot of processes of adapting the techniques. So the presentation moved on the case study in the Biskra area, which is in Algeria in the Saharan Desert, where people draw water from deep aquifers and where there has been a significant increase in irrigated area over the last decades, where it was multiplied by 5. So there was a picture showing you the homogeneity of the landscape with a lot of greenhouses and date palm trees, but beyond this image there is a large diversity of systems, a large diversity of practice, of irrigation practice by farmers. And two main adaptations to irrigation systems that were shown was the fact that instead the fertigation unit, instead of being at the head end, at the head stations, is done individually at each greenhouse. The other adaptation was a kind of water column which allowed to stabilizing water pressure depending on who opens and closes the valves. Those innovations were partly triggered by the fact that there is a very complex land tenure systems where you have owner, tenants, sharecroppers sharing the same kind of system, but they need a flexibility of the system so it can be managed for their own uses. So what was key in explaining, then the presentation finished by trying to compare this kind of innovation by farmers with small kits, drip irrigation kits that are promoted in West Africa, notably, and showing that there has been a huge flexibility and adaptability here, and notably the availability of material and also the mobility of the actors here were key factors to explain how and why farmers adapted the initial systems, basically kind of debunk them, kept the minimal items of it, and kind of re-engineer them to fit their own needs.
Micro, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Donc, je vous remercie l'intervenant pour la présentation. Donc j'ai un petit commentaire et peut-être des questions sur la logique de ces projets. Tout d'abord, est-ce que les coûts de cette modernisation, je dirais entre guillemets bricolée par les agriculteurs, est-ce que ce coût a été évalué par rapport à quoi à une conception classique par les ingénieurs sur une durée de fonctionnement significative. Parce que, bon, à mon avis, bricoler une station, enfin, un kit d'injection, faire des économies sur l'investissement sur un kit d'injection qui, normalement, ne coûte pas, c'est pas la composante la plus chère d'une installation, risque de se traduire après par des surdosages ou des sous-dosages d'engrais. On sait qu'en irrigation localisée, les deux intrants les plus chers, c'est l'eau et le fertilisant. Donc, un calcul économique sur une durée raisonnable serait peut-être également sur la conception bricolée de tout ce qui est régulation de pression par le réservoir surélevé. Un ballon de régulation, non plus, ce n'est pas l'élément le plus cher dans une installation goutte à goutte. Donc, voilà, c'est un peu les questions qui sont posées pour cette, parce que le low cost pour un agriculteur, ce n'est pas forcément le low cost calculé par un ingénieur. Merci.
So the question is on whether this system is, I mean, what, has there been any economic calculation on those systems?
Oui, c'est fort intéressant parce que là, on voit bien l'innovation à l'œuvre. Ce qu'on ne voyait pas trop dans les cas précédents qui étaient limités à des vues, disons, assez générales, mais pas très concrètes. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Je voudrais vous poser une question sur la salinisation de l'eau et des sols. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'eau qui est pompée est salée? Est-ce qu'il y a du drainage artificiel? Enfin, comment vous faites?
What is the status of the system in regard to salinity of water and soil?
Merci. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette présentation et puis l'innovation aussi, parce que je pense que ce qui est inédit ici, c'est quand même l'implication à la base des gens, des exploitants eux-mêmes. C'est le fait aussi, bricolage entre griffes, le fait qu'ils aient pris conscience d'une nécessité de régulation, parce qu'ils ont compris qu'avec la fermeture, il y avait des débordements, il fallait réagir de l'autre côté. C'est quelque chose de bien. Autre élément positif, c'est la nécessité de décentraliser le poste d'injection. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme injecteur, mais a priori, le fait de le décentraliser, ça limite les dégâts. Donc, je pense que c'est une application qui, là où ça a été essayé, avec des dattiers, avec des serres, avec des gens qui ont différents besoins, à mon avis, c'est adapté, assez bien maîtrisé. Et puis, bon, peut-être que ça peut être... Ça demeure perfectible, certainement. Ma seconde contribution, c'est par rapport à... Parce qu'il a fait allusion un peu au kit goutte à goutte qu'on voit souvent en Afrique. C'est vrai que c'est un terrain où on en a vu de toutes les couleurs. De 100 mètres carrés à 1 hectare, on a tout essayé là-bas. Même avec des gaines perforées avec des clous, on a tout fait. Mais... il faut dire que ces petits kits africains de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, qui ont des coûts relativement abordables, posent un problème qui a été abordé par le premier intervenant, c'est les questions de pollution et après de vandalisme. Et autre élément, ils apparaissent comme des équipements qui ne correspondent pas aux besoins des populations. Parce qu'en réalité, le petit agriculteur dont on parle, qui est sur 500 mètres carrés, il a une meilleure maîtrise de l'eau avec son arrosoir, plutôt qu'avec le système goutte à goutte qu'on lui propose. Donc vraiment, on lui amène quelque chose qui le dérange encore plus. Parce qu'il faut qu'il surveille, que ça, on ne le vole pas, etc., etc. C'est ce qui fait qu'on a du mal à développer ce genre de truc. Mais je finirai par un exemple qui marche très bien au Sénégal, quelque part dans la vallée, où les gens ont pris l'habitude d'investir dans le goutte à goutte pour la tomate et pour autre chose, et qui ont des équipements de niveau vraiment top du top, comme on dit. Hein, on ne peut pas faire mieux, quoi, en plein Sénégal, dans la vallée du fleuve. Donc, c'est très, très variable. Il faut surtout, juste pour terminer, qu'il faut que vraiment on s'adapte, qu'on prenne en compte les besoins des populations et qu'on les implique. Quand ils sont intéressés, ils feront le pas. S'ils ne le sont pas, il faut rester à leur niveau. Voilà. Merci.
Merci. Il y avait juste une dernière question.
Dernière question, monsieur.
Merci. Je voudrais féliciter le dernier intervenant. Et je voudrais aussi partager, parce que je viens d'un pays où il fait encore moins de 200 mm dans un pays désertique. Et ma première question, plus ou moins, ce sont mes prédécesseurs qui ont déjà évoqué, c'est en termes de coût pour un petit agriculteur qui a une exploitation de 1 hectare, quels sont les coûts de cette technique pour mettre en place. Et l'autre aussi, quel type de culture? Parce que je sais que de chez nous, ce sont les cultures potagères. Et est-ce que les cultures fourragères sont aussi adaptées? Et aussi les cultures céréalières pour les questions de goût d'à-coût. Parce que cette technique est vraiment difficile, mais elle est adaptée parce que c'est un pays vraiment désertique. Il faut vraiment gérer. Et il faudrait... Parce que je prends aussi l'autre exemple de notre collègue du Sénégal. On a commencé à mettre en place... Et au bout d'une semaine, ils ont tout enlevé les tuyaux parce que ça se bouchait, il y avait un problème d'écoulement. Ils ont tout détruit et revenu à leur ancienne méthode. Donc du coup, avant de mettre en place, il faudrait mettre en place ce qu'on appelle une formation, une information, une sensibilisation. Et donc déjà préparer les agriculteurs pour qu'ils puissent accompagner cette évolution. Merci.
This question related to cost. The type of crop that can be used and the need of training for farmers.
Mohamed. Ouais, je commence avec la première question. D'accord. Alors, si je reviens à la question de premier collègue, on vient sur le problème de coût. En fait, quand j'ai parlé des systèmes d'innovation ici, c'est une adaptation en fait technique et pas une adaptation, c'est-à-dire pour avoir un système low cost. Parce que je l'ai comparé à un système low cost, c'est-à-dire des kits préfabriqués qui ont été distribués en Afrique. L'adaptation technique ici qui a été menée par ces agriculteurs, c'était pour faire face à des problèmes techniques, c'est-à-dire par rapport aux problèmes de régulation au niveau du système d'irrigation, par rapport à la gestion technique et économique au niveau de l'exploitation pour mettre en place des systèmes de fertigation, c'est-à-dire à l'échelle de la serre. Parce qu'en fait, si on met en place, même si ce n'est pas coûteux, c'est-à-dire de mettre en place un système de fertigation centralisé au niveau de l'exploitation pour plus d'une vingtaine ou une trentaine de métiers qui travaillent, c'est-à-dire en même temps avec une polyculture, c'est-à-dire on peut retrouver, c'est-à-dire dans la même petite exploitation, c'est-à-dire de 10 ou à 5 serres, on peut retrouver, c'est-à-dire 4 cultures différentes. C'est-à-dire on ne peut pas gérer la fertigation d'une telle manière, en fait. Ouais. Par rapport au système de régulation au niveau de ce système d'irrigation goutte à goutte, en fait, c'est une régulation de pression, c'est-à-dire pour, premièrement, quand on a dit, c'est-à-dire si on voit bien, c'est-à-dire le château d'eau, c'est pour maintenir la pression au niveau du réseau, ainsi qu'un système de sécurité contre, c'est-à-dire le coût, c'est-à-dire de fermeture de réseau, ainsi que pour le vidange aussi du réseau d'irrigation à la fin de l'opération de l'irrigation. C'est-à-dire, ne sont pas des systèmes pour... C'est-à-dire, le but, ce n'est pas pour, non seulement, c'est-à-dire pour, minimiser les charges, mais plutôt, c'est-à-dire pour faire face à des problèmes techniques, ainsi qu'avoir un système, simple et pratique pour des agriculteurs qui n'ont pas des notions, entre guillemets, d'ingénierie, c'est-à-dire d'ingénieur ou, de plus haut niveau. D'accord ?
La question de la salinité sur les...
Ah, la deuxième question sur la salinité pour le monsieur... En fait, le milieu ici il est très salin et les eaux utilisées ici sont qu'elles peuvent arriver jusqu'à 6 grammes de sel par litre. C'est-à-dire, elles varient, c'est-à-dire entre 2 à 3 grammes jusqu'à 5 à 6 grammes par litre. Par contre, ce système d'exploitation ici, il est très mobile en fait. C'est-à-dire, on n'a pas eu le temps peut-être de parler de système de culture ou le fonctionnement de ces exploitations-là. Ça peut aussi faire répondre à la quatrième question, je pense, sur le coût à l'hectare. Parce qu'en fait, un forage, il dessert en général 10 hectares. Parce que le propriétaire, il doit avoir 10 hectares, mais c'est pas le propriétaire qui va exercer en fait la plasticulture ou le maraîchage sous serre. Il va faire appel à des petits locataires, en fait. Et ces petits locataires, quand ils viennent, ils vont avoir entre 5 jusqu'à une vingtaine de serres. Autour d'un seul forage, on peut avoir entre 100 jusqu'à 250 serres. C'est-à-dire qu'ils vont être desservis, c'est-à-dire en même temps. Alors, pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'il va y avoir une très forte chute de production ou de productivité de la terre.
Alors, à ce moment-là, les locataires, elles vont se déplacer ailleurs et le propriétaire terrien, il va se convertir toute sa terre, c'est-à-dire en phéniciculture ou en palmier dattier. Et le palmier dattier, en fait, il est très résistant à la salinité. Et comme ça, c'est-à-dire cette dynamique d'agriculture, elle passe premièrement d'internu. Le facteur déclenchant, ça sera le point d'eau. Et puis, on va avoir les serres, les locataires vont se déplacer. Et puis, on va avoir la reconversion, au final, vers le palmier dattier. Merci, monsieur. La quatrième question. Par rapport au coût du système d'irrigation au niveau de ces exploitations-là. En fait, j'ai mis des... je ne maîtrise pas la situation par rapport à ouais, voilà. J'ai mis des petits carrés comme ça. C'est-à-dire, chaque acteur est responsable sur une partie du système. Par exemple, pour l'investissement, en fait, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un investissement sur le forage qui peut lui coûter environ 20 000 euros avec équipement. Et puis, il va faire le réseau principal jusqu'au serre. Et puis, on va avoir les propriétaires, plutôt les locataires, qui vont investir dans les conduites, c'est-à-dire le PHD 32 mm. Et puis, elles vont investir, c'est-à-dire dans les gaines souples à l'intérieur du serre. Et en fait, pour les locataires, ça ne coûte rien parce que ça coûte 30 euros par serre. Et la serre, elle fait rentrer jusqu'à 3 000 euros par an, c'est-à-dire de recettes brutes. C'est-à-dire pour eux, l'investissement dans le système d'irrigation pour les locataires, c'est rien. Pour le propriétaire, ces investissements qu'ils peuvent aller jusqu'à 30 000 euros entre nivellement, pour des hectares, entre nivellement et forage et équipement, il peut les récupérer dans la première, maximum en deuxième année, parce qu'il loue l'emplacement de serre pour 300 euros l'an, terre et eau. Donc, s'il possède environ une centaine de serres, il va avoir son investissement à partir de la première année. Ils font des contrats avec ces agriculteurs pour qu'ils restent au moins 3 ans sur le même emplacement. C'est-à-dire, il va avoir 90 000 euros durant les 3 ans, et comme ça, même, il peut investir dans la phéniciculture juste après le départ des locataires.
Merci Mohamed. On va faire une petite pause d'une vingtaine de minutes, hein, maximum, revenir ici à 4 heures. Donc les présentations après la session seront plus sur le versant nord de la Méditerranée, alors que c'était plus dans le versant sud. Les questions sur les kits de goutte à goutte, je propose qu'on les reprenne demain matin, parce qu'il y a beaucoup de présentations qui sont sur ces sujets-là à ce moment-là. Merci beaucoup, et donc on vous attend d'ici 20 minutes pour la deuxième partie de la session.